Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Alicia, c'est bienvenue dans votre émission Page à page, où nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, je reçois François Vermel, bonjour.
Bonjour.
Qui est auteur, conteur, parce qu'il se définit ainsi, mais il est aussi auteur jeunesse, puisqu'il vient présenter son livre Godefroy, le roi des petits pois, édité chez Didier Debord aux éditions du Griffon Bleu à Haute-Rive, dans notre région. On parlera de lui juste après quelques infos, comme à l'accoutumée. Alors, je commence à la librairie Priva, qui est toujours 14 rue des Arts à Toulouse. Ce soir, jeudi 24 avril à 18h, vous aurez le plaisir de rencontrer Anne Gavalda pour son dernier roman, La Consolante, aux éditions Le Dilettante. Donc, l'accès est libre et gratuit. Donc, n'hésitez pas à venir rencontrer cet auteur fort connu, donc Anne Gavalda. Et puis, à la librairie Priva également, le jeudi 15 mai, donc c'est dans 15 jours, à 18h, vous aurez le plaisir de rencontrer Catherine Pancol pour son dernier livre qui est intitulé « La valse lente des tortues », paru aux éditions Albin Michel. Et puis le samedi 17 mai, à 16h par contre, à la librairie Priva toujours, vous aurez le plaisir de rencontrer Denis Tillinac, pour son dictionnaire amoureux de la France, qui est publié aux éditions Plon. Donc voilà, la librairie Priva annonce pas mal de bons auteurs avec pas mal de livres intéressants. Et puis comme on a un conteur aujourd'hui comme invité, je ne peux pas passer à côté toujours de la médiathèque José Cabanis, qui fait l'heure du conte tous les mercredis. Alors c'est à 11h pour les petits de 3 à 5 ans, et puis à 16h pour les plus grands à partir de 5 ans. Alors c'est au Piccolo Teatro, au Red Jardin. L'accès là aussi est libre et gratuit. Je vous donne un numéro de téléphone pour plus d'informations. 05 62 27 64 91. 05 62 27 64 91. À la médiathèque José Cabanis à Toulouse. Et puis, enfin, une info, le Café Philo va reprendre, puisque au mois d'avril, il n'y avait pas eu de séance philosophie. Ça reprend le samedi 17 mai, de 17h à 19h, au Café des Arcades à Revel, qui se situe place de la Halle Centrale. Et le thème de ce samedi 17 mai, c'est « Quand je dis, je pense, où est passé mon corps ?» Donc voilà, si cette interrogation...
Ça se passe le jeudi, c'est ça ?
Non, ça se passe... samedi. Donc voilà, l'entrée là aussi est libre et gratuite et les consos sont en tarif habituel. Donc si cette interrogation vous interpelle, n'hésitez pas à y aller. Voilà, les débats sont... On peut prendre la parole. Voilà, c'est une discussion qui doit mener à développer cette question, ce questionnement. Et puis je termine les infos avec, je vous rappelle, la pièce qui se joue en ce moment au Théâtre du Fil à Plomb à Toulouse, 30 rue de la Chaîne dans le quartier Arnaud-Bernard. Cette pièce écrite par Majid Cherfi qui s'appelle Vice de forme et interprétée par Abderrazek Mamedi et Badradine Regieg. Donc c'est du jusqu'au 17 mai comme je vous le disais. Je vous donne le numéro de téléphone parce qu'il faut réserver bien entendu. 05 62 30 99 77. 05 62 30 99 77. Et c'est une mise en scène, la pièce est mise en scène par Philippe Cancé.
Page voilà. À page, Claire Ambille.
Pou pou pitou. Alors cette fois-ci je me tourne vers mon invité, qui est donc, comme je vous le disais au début de l'émission, François Vermel. Alors François Vermel se définit comme un conteur. On va parler déjà un petit peu du début, parce qu'on n'est pas conteur comme ça. Il a fait beaucoup de choses, François, avant d'arriver au conte. Alors déjà, vous êtes originaire du Pas-de-Calais, chez les Ch'tis.
Oui, oui, oui.
C'est
ma famille est ch'ti,
hein.
Même si j'ai jamais vraiment vécu là-bas, je suis de sang ch'ti.
Voilà, de sang ch'ti. Et vous êtes papa de trois grands enfants maintenant, qui ont grandi. Et vous êtes audois, vous habitez Castelnaudary actuellement.
J'habite à côté de Castelnaudary, dans un tout petit village dans la montagne noire.
Depuis une trentaine d'années, donc
30
vous êtes,
ans,
vous êtes installé donc dans notre région. Et votre papa était dans la coopération.
Voilà.
Donc vous avez pas mal bougé.
Voilà, j'ai grandi un peu partout, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient.
Vous êtes né à Marrakech.
Je suis né à Marrakech, voilà.
Une belle ville.
Ben, je la connais pas trop, hein, j'y suis resté jusqu'à 3 ans.
Ah oui.
Voilà,
oui,
j'y suis retourné quand j'avais 12 ans à peu près, donc j'ai quand même une idée de ce que c'est. Mais il paraît que ça m'a marqué, parce que je discutais une fois avec Habib Samarakandi, qui est responsable culturel à l'Université du Mirail, et il me demandait pourquoi j'étais conteur. Je lui disais que j'en savais rien, que j'avais pas une grand-mère qui me racontait. Et il me dit, mais t'es né à Marrakech, le jour où tu es né, il y avait un conteur sur la place Jemaa el Fna, et c'est pour ça que t'es conteur.
Oui, parce que c'est vrai qu'en Afrique du Nord, le conte, c'est important.
C'est quelque chose qui est encore
la transmission
assez vivant,
d'un peu de l'histoire, des histoires de chacun. Et
tout à fait, c'était comme ça en Europe aussi, et dans le monde entier. Hein, vous imaginez, ça fait quand même 4 à 6 millions qu'il y a des hommes sur Terre.
Oui.
Alors que ça fait que, quoi, 50 ou 100 ans que tout le monde dans nos sociétés sait lire et écrire. Ça veut dire que pendant des millions d'années, on a tout transmis par l'oralité.
Par l'oral, oui.
Il n'y avait que ça.
Et oui, tout à fait. Et donc, vous êtes arrivé en France quand vous aviez 15 ans.
Voilà.
À l'adolescence. Et alors, ce qui est insolite, c'est que vos études, en fait, vous avez fait un CAP de tailleur de pierre.
Voilà, je suis très fier. C'est mon seul diplôme.
Tailleur de pierre, c'est donc vous avez restauré des monuments historiques, des églises.
Voilà, j'ai travaillé pendant des années dans les monuments historiques, voilà.
Églises romanes, gothiques.
Voilà, exactement.
C'est un super métier, hein.
Ah, c'est passionnant.
Tailleur de pierre.
C'est très très intéressant. On est au grand air, en haut des clochers.
oui, non, ça permet aussi peut-être de penser aussi, d'avoir la tête un peu dans les nuages, peut-être, enfin,
voilà,
dans les nuages dans le sens.
Ce qui est bien dans les métiers manuels, c'est que ça laisse beaucoup de temps pour méditer, parce que ça occupe les mains.
Pour réfléchir.
Et ça laisse le temps, ouais, de
pour réfléchir.
D'écouter la radio. J'écoutais la radio en travaillant.
Ah, oui, donc vous me disiez à l'heure que vous aviez appris beaucoup de choses un peu autodidacte en écoutant France Culture.
Ben, un peu obligé, hein, quand on n'a pas fait d'études, ben, on se débrouille comme on peut. Et c'est vrai que
la radio
France Culture
a
été une source de savoir extraordinaire pour
donc
moi.
Là aussi, l'oralité. Parce que vous auriez pu prendre la télévision, par exemple, l'audiovisuel.
Ouais, mais. Si vous prenez, par exemple, le journal télévisé pendant une heure et vous écoutez un quart d'heure d'infos sur la radio, vous avez plus d'infos en un quart d'heure à la radio qu'en une heure à la télé.
C'est plus concentré.
Oui, c'est plus efficace.
C'est plus efficace parce que, bon, on n'est pas dérangé par le visuel, justement, peut-être, parce qu'avec les images,
sans doute.
Ça,
Ensuite, j'ai découvert il n'y a pas longtemps que la plupart des images qu'on passait dans les journaux télévisés étaient des images d'archives. C'est-à-dire que quand on vous montre la guerre, en Afghanistan, par exemple, c'est pas forcément des images. On voit des images de soldats et tout, mais c'est pas forcément des soldats qui sont en Afghanistan.
Oui, c'est pas ceux qui sont forcément.
ouais.
D'accord. Ah oui. Oui, donc tandis qu'à la radio, bon ben voilà, tout est concentré,
voilà.
On entend.
Et puis la radio, comme la parole, laisse une place à l'imaginaire. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'image, donc ça se fait dans votre tête.
Oui, c'est notre propre cerveau qui fabrique ses propres images.
Or, si vous voulez, l'être humain est imaginaire. C'est-à-dire que si je dis un chien, par exemple, aussitôt, vous avez une image de chien.
Voilà.
Pourtant, je ne parle pas de ce chien en particulier.
Oui, non, voilà.
Mais le cerveau humain ne peut pas avoir une idée sans en faire une image mentale. Et quand on regarde trop la télé, hein, on le voit avec les tout petits enfants qui sont élevés devant la télé, ils n'ont pas d'imaginaire.
Ouais,
donc ils ne savent pas se faire des images mentales, si bien qu'ils ne peuvent rien apprendre à l'école, ils ne peuvent pas lire, parce que ça ne leur fait pas d'image.
C'est vrai, oui. C'est tout à fait exact. Et vous avez fait du théâtre aussi. Hein. Le théâtre aussi, une mise en scène.
Voilà, j'ai commencé comme ça quand j'étais adolescent, au lycée, puis après.
Théâtre de rue aussi à Bordeaux.
Voilà, on faisait du théâtre contre la bombe atomique à l'époque, qui était vraiment la grosse menace, quoi. Ça faisait peur. Hein.
Oui, donc vous avez interprété des pièces qui.
C'était des petits sketchs qu'on faisait dans la rue comme ça. Et puis au
bout
d'un
moment. Vous aviez la police qui venait vous.
On se faisait arrêter par la police, mais c'était strictement interdit. On se retrouvait au commissariat.
Et vous avez toujours écrit, en fait, François Vermel.
Oui, beaucoup, beaucoup. J'aime bien. C'est un plaisir des mots. C'est extraordinaire, les mots. Alors, je conseille à tout le monde d'avoir un petit carnet pour faire son dictionnaire personnel des mots rares et précieux. Il y a un livre qui s'appelle comme ça, qui est très sympa, « Le dictionnaire des mots rares et précieux ». Et moi, j'ai mon petit carnet, et quand je trouve un mot joli, je l'inscris dedans avec sa définition. Et je conseille D'accord. à tout le monde de faire ça, c'est très rigolo.
Vous êtes plus donc petit carnet et crayon plutôt qu'informatique, j'ai l'impression. Vous êtes mis à l'informatique,
oui. Comme tout le monde.
Oui, mais enfin, vous préférez avoir votre calepin dans la poche avec votre stylo.
Ah, mais c'est bien d'avoir son petit calepin. Quoique maintenant, j'ai ça, un PDA, et j'ai ma liste de mots précieux sur mon PDA, quand même.
Ah oui, vous êtes quand même, oui.
Peu importe le support.
Modernisé.
C'est le moyen compte peu, c'est le but. Mais c'est passionnant, de trouver des mots extraordinaires. Comme wakapu. Vous savez ce que ça veut dire, wakapu?
Wakapu.
W-A-K-A-P-O-U.
Ça fait un bon mot pour le Scrabble, ça.
Ouais.
Avec le W, c'est ouais. Lettre compte triple.
Et c'est,
ça fait,
c'est un arbre exotique, le wakapu.
Un arbre exotique.
Je trouve ça extraordinaire, un arbre qui s'appelle wakapu.
Oui, c'est très sympa. On pourrait le mettre dans un livre pour enfants, justement. Ça pourrait leur apprendre.
Peut-être que mon prochain livre, ça se rappellera
wakapu.
L'habitant du wakapu.
Oui. Alors justement, les histoires pour enfants, en fait, vous avez commencé à raconter des histoires. Enfin, vous avez inventé des histoires pour quand vous avez eu vos enfants.
Voilà,
vous leur racontiez des histoires le soir,
inventées
de toutes pièces.
Voilà.
Mais vous les écriviez pas, vous les racontiez simplement. Donc elles
tête. Je les ai dans la tête. Les conteurs, ils ont pas un texte. Ils savent ce qui se passe dans l'histoire et ils le racontent comme on raconterait ce qui s'est passé hier. Si vous me racontez ce que vous avez fait hier, vous avez pas besoin de l'écrire et de l'apprendre par cœur.
Ah non. Il faut déjà que je m'en rappelle.
Voilà.
Et puis, vous avez fait aussi famille d'accueil. Alors ça, c'est assez insolite aussi dans votre parcours. Vous avez accueilli des adolescents. Vous étiez assistant maternel.
Paternel,
enfin, je ne sais pas comment on dit.
Alors, c'était extraordinaire parce que comme l'administration est un peu difficile d'adaptation, je recevais toutes les lettres au nom de Madame François Vermel, assistante maternelle.
Oui, c'est vrai que c'est...
Donc
c'est...
voilà, j'étais salarié du Conseil Général pour garder des enfants qui sont enlevés de leur famille. Parce qu'ils sont en danger.
D'accord.
Moi, j'étais à la maison, je m'occupais des enfants.
Et votre femme travaillait à l'extérieur.
Ma femme travaillait à l'extérieur.
C'était le schéma un peu inversé du
conventionnel,
on va dire.
Non, tout à fait. C'est le hasard qui a mené ça, et c'était sympa.
Et là aussi, vous racontiez peut-être des histoires.
Voilà, je leur racontais des histoires. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup appris d'eux. C'est un métier formidable parce que tout d'un coup, on découvre des mondes. Ces enfants viennent de milieux complètement différents, ont des idées sur le monde différents, même les mots ont des sens différents, et tout d'un coup, ça ouvre, quoi, ça permet...
Il y a un échange aussi, parce que vous leur apportez aussi une certaine stabilité.
Bah ça, je sais pas trop, j'espère.
Si, sûrement aussi.
J'espère,
on n'est pas famille d'accueil comme ça, par hasard quand même. Il faut quand même pas une vocation, mais enfin une motivation forte.
Oui.
Y croire aussi, croire qu'on peut apporter à ces jeunes quelque chose de positif pour les aider à évoluer.
Faut être modeste, je sais pas si on apporte tant que ça, mais toujours. Les gens qui sont occupés à la DAS disaient que le premier effet, c'était un effet d'exemple. C'est-à-dire que ces enfants qui ne savaient pas ce que c'était qu'une famille, tout d'un coup, au moins découvraient.
Ça leur faisait un repère.
Voilà. On peut pas faire une famille si on sait même pas ce que ça existe. Et donc,
oui,
le premier but, c'est qu'ils se rendent compte que ça peut exister, quoi. Déjà ça, au moins, ça fait quelque
chose. C'est déjà
chose.
Pas mal. Et puis après, donc, vous avez continué. Donc, compte là, vous êtes mis vraiment compteur professionnel. Donc,
raconter
vos histoires, toutes les histoires que vous aviez dans votre tête, vous avez eu envie de les transmettre.
Et en fait, ça marchait pas. C'est-à-dire, au début, comme j'étais assistant maternel, j'avais du temps dans la journée quand les enfants étaient à l'école.
C'est drôle de dire assistant maternel.
Donc, donc des copines instit m'ont demandé de venir raconter dans leur école.
D'accord.
Et pendant un an et demi à peu près, j'ai raconté comme ça et je me disais conteur. Et puis un jour, j'ai entendu un conteur qui est disparu hélas, Mamadou Diallo. Et quand je l'ai entendu...
Le nom ne m'est pas inconnu.
Ah, c'était un type extraordinaire. Et quand je l'ai entendu en spectacle, ça m'a scié. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai compris que j'avais rien compris au conte et que ça allait bien au-delà de mes petites histoires. Donc j'ai arrêté.
Une dimension un peu.
Ouais.
Hein.
J'ai arrêté de raconter en public. J'ai été voir des conteurs et j'ai appris le métier. Et pendant
comme
10 ans.
Comme ça, sur le tas, enfin comme on dit.
Sur le tas,
sur
ouais. Ben quand même auprès. Puis j'ai été au CMLO à Alès, dans le Gard, qui fait une très très belle formation à la littérature orale sur 3 ans. Donc j'ai été faire cette formation.
D'accord.
Et puis, ben, ça a duré 10 ans. Puis un jour, au bout de 10 ans, il y a un compteur qui m'a dit, écoute, maintenant, t'es d'un niveau professionnel, tu devrais payer les charges sociales.
Tu peux te lancer, vas-y, voilà. Tu peux te lancer, tu peux y aller.
Voilà, et puis, ben, comme ça, quand j'ai arrêté mon métier d'assistant maternel, parce que mes enfants étaient grands et que c'est un métier usant.
Oui, il faut
donc,
quand même
après
du
13
temps,
ans,
la
je trouvais que ça va, j'avais donné.
De la patience aussi.
Donc, j'imagine. Je me suis devenu intermittent du spectacle. Et voilà, depuis 10 ans, je vis de ça.
Et donc, là, vous faites nos compteurs toujours un peu dans les écoles, mais aussi dans les médiathèques, dans les salles des fêtes aussi. Vous faites carrément des spectacles.
Oui, alors on a deux casquettes un peu. Mm-hmm. Hein, celle de compteur traditionnel, si on peut dire, où on est effectivement avec un petit public, comme à la veillée, 20, 50 personnes. Et compteur spectaculaire, où on se retrouve dans un théâtre, comme j'étais à Montauban, par exemple, il y a 2 ans, avec 500 personnes.
Ah oui.
Donc là, effectivement, c'est un travail différent. Et tout le problème, c'est comment on reste compteur quand on est dans cette distance sur une scène de théâtre. Rester compteur, ça veut dire que...
Pour pas devenir, oui, voilà comédien,
Voilà, on n'est pas en train de montrer quelque chose qui se passe sur scène. L'histoire se passe dans la tête des gens en éveillant des images dans leur tête.
Hein. Oui, c'est pas évident, ça, à faire.
Voilà, et donc, ça devient un autre métier. Et souvent, les jeunes compteurs qui démarrent, quand ils commencent à bien marcher, on leur propose d'aller sur scène. Et là, ils se cassent la figure parce qu'effectivement, c'est un métier différent. Alors, il y a deux chemins. Il y en a qui, du coup, vont vers le théâtre, théâtralisent.
Oui, voilà. Donc
et
plus
puis d'autres
visuel,
qui essayent de rester dans cet imaginaire. Moi, c'est ma voix. Je ne sais pas si c'est la bonne, mais c'est ce que j'essaye de faire.
Enfin, c'est ce que vous aimez, tout du moins. Vous êtes assez passionné, François, et puis engagé aussi. Vous y croyez. Et puis bon, par le fait de votre statut d'intermittent aussi, il y a un certain engagement. Forcément, on ne peut pas être autrement dans
oui,
ce genre
le statut
de métier.
D'intermittent, c'est dur. Hein. Faut dire ce qui est, ça tombe pas du ciel. Faut vraiment beaucoup
faut y
travailler.
Croire. C'est ça.
Faut y croire. Hélas, on est en train de nous le supprimer petit à petit, ce qui est dommage parce que la grande vertu du statut d'intermittent, c'est que c'est le public qui décide qu'il l'a. C'est-à-dire que si on a suffisamment de public, on a suffisamment de contrats et on a droit aux aides de la SEDIC. Ces aides ne peuvent pas être supprimées. Hein, le président du conseil général, s'il n'est pas d'accord avec ce qu'on dit, il peut pas dire, allez, on lui enlève la SEDIC.
Tout à fait.
Le jour où il y aura plus le statut, on devra demander de l'argent soit aux entreprises, et à ce moment-là, il faudra être très commercialement correct.
Et oui. Donc, on aurait plus cette liberté d'expression, de choix.
Soit aux hommes politiques, et il faudra être très politiquement correct. Donc, c'est la garantie de la liberté d'expression des artistes,
oui.
Et c'est ça qu'il faut défendre à travers ce statut.
Ça sera des commandes, voilà, on vous commandera.
Tel spectacle,
tel conte, voilà. Telle histoire.
Souvent, en spectacle, je rigole comme ça, je raconte une histoire, puis je dis, il y a une histoire où Nasreddin accroche ça. Je vous la raconte.
Oui.
Dans 5 minutes.
Oui.
Nasreddin, il lave sa djellaba, parce qu'elle est sale. Et puis quand elle est propre, il l'accroche sur le fil pour la laisser sécher. Et puis il va faire la sieste, parce que comme il en a qu'une, il va pas sortir tout nu.
Ah bah oui.
Et puis quand il se réveille, il approche, et alors là, quand justement je dis, il accroche sur une corde à linge qu'il a achetée chez Conforama.
Ah.
Et alors je dis, ben oui, parce que bientôt, on n'aura plus de statut, on sera obligé de faire la pub pendant le spectacle. Alors je m'entraîne, donc chez Conforama. Et là, je fais répéter au public. Et je lui dis, ben voilà, quand le public le dit, on touche deux fois. Et c'est vrai. Et alors, quand il se réveille, il vient et la djellaba a disparu. On lui a volé.
On lui a volé.
Alors, il s'incline sur le sol et il se met à remercier Dieu. Il dit, Dieu, tu es grand, tu es mon sauveur. Merci Dieu, tu es mon sauveur. Et sa femme arrive, lui dit, mais ça va pas. Enfin, on te prend la djellaba et tu remercies Dieu. Tu trouves ça bien. Tu penses qu'on a l'argent pour en acheter d'autres. Et lui dit, mais tu te rends compte, tu sais où est la djellaba, toi? Sa femme lui dit, ben non. Alors imagine comme Dieu fait bien les choses, si on avait volé la djellaba quand j'étais dedans, où je serais maintenant.
Ah oui, effectivement, c'est une histoire... Oui.
Voilà, les histoires de Nasreddin, c'est ça.
C'est ça. Et alors donc la rencontre avec Didier Debord, parce que donc Godefroy, le roi des petits pois, édité au Griffon Bleu, donc les éditions du Griffon Bleu se situent à Autrive, là à côté de Toulouse, et donc le responsable c'est Didier Debord, donc il y a eu une rencontre avec Didier dans un festival du conte justement.
Oui, au festival de Limoux, je suis pas prêt de l'oublier cette rencontre,
oui,
parce qu'on mangeait ensemble, c'est une amie conteuse qui nous a présenté. Et pendant tout le repas, j'ai pas pu en placer une.
Ah ben Didier est très bavard aussi.
Ah hein, c'est ça. Exceptionnel, j'ai jamais vu un homme comme ça. Moi je lui tire mon admiration parce que pour empêcher un conteur de parler,
il faut le faire.
Hein.
Il en faut. Hein. Ah oui, c'est ça. Mais là vous avez trouvé effectivement.
Et c'est un gars extraordinaire parce que bon il est traducteur d'abord, auteur aussi.
Et puis depuis il a monté le Griffon Bleu.
Et il s'est lancé dans cette entreprise complètement barjot d'éditer
créer
des bouquins
jeunesse, des albums jeunesse, des livres jeunesse.
Alors il faut le faire, hein, parce que ça lui rapporte rien. C'est vraiment un passionné et c'est extraordinaire. Alors chapeau bas à lui, hein, franchement.
Oui, mais c'est ça, c'est tout un monde de passionnés. Hein,
ah ouais, c'est extraordinaire.
Voilà, de gens qui croient en ce
Et en plus, font, il fait des magnifiques bouquins. Je trouve que tous ceux qu'il a publiés sont très très beaux.
Bah justement, vous avez donc écrit Téméraire et Timoré, le premier.
Ah ouais. Ça, c'est vraiment une belle histoire. J'aime beaucoup.
Donc au Griffon Bleu, et dont les illustrations étaient faites par Laurine Ménétré. Mm-hmm. Et pour elle, c'était son premier livre qu'elle a illustré.
Oui, c'était
elle
rigolo
était toute jeune,
parce que.
Elle était à l'école des
Beaux-Arts. Didier Debord avait entendu cette histoire, il me l'a demandé. Comme je sais que son épouse est illustratrice, je pensais qu'il voulait la faire
illustrer.
Que ça
illustrer, soit ça, voilà. Oui, voilà. Que ça soit
Alors je lui dis, justement, il y a une demoiselle, elle était à l'école, et pour un devoir d'école, elle m'avait demandé une histoire, elle avait choisi celle-là.
Téméraire.
Alors je lui ai dit ça, il m'a dit qu'elle m'envoie les images, ça lui a beaucoup plu.
Et donc finalement, c'est comme ça que vous avez fait le livre
avec Laurine.
Et donc, Téméraire et Timoré, c'est l'histoire de deux jumeaux, donc il y en a un qui n'a peur de rien, et l'autre qui a peur de tout.
Et puis celui qui a peur de rien, bien sûr, au bout d'un moment, va partir explorer le monde. Il va découvrir un dragon monstrueux avec une princesse enchaînée sur le dos. Une princesse presque aussi belle que vous.
Ah, mais merci François,
Puis, par le hasard de l'histoire, c'est pas le téméraire qui va épouser la princesse. C'est l'autre, c'est pas juste.
Mais des fois, ça, justement, l'évolution, moi je crois beaucoup en l'évolution tout court, quoi. Des gens, l'évolution de la vie, l'évolution des choses.
Je crois que c'est important.
Oui.
Et que les contes sont là pour aider les gens à trouver leur
chemin. À évoluer. Et puis ensuite, il y en a eu un deuxième, donc d'album jeunesse, Abracadameu.
Ah ouais, alors là, c'est très différent. Ça, c'est une histoire plutôt rigolote. C'est une sorcière.
Une sorcière
avec un grand nez, vous savez.
Une sorcière gentille.
Une gentille sorcière de village,
vous
voyez.
Oui.
Bonne, brave sorcière de village. Et puis alors, elle se fait vieille, elle a des problèmes d'oreilles, hein, des acouphènes, tout ça. Et alors, elle commence à être fatiguée, ça fait quand même 327 ans qu'elle est sorcière
dans ce village.
Elle voudrait prendre sa retraite sur la Côte d'Azur.
D'accord.
Et donc, elle cherche une remplaçante. Seulement, les remplaçantes qui arrivent barrent des diplômes. Hein, CAP, BEP,
oui, on n'est pas sorcière comme ça.
Ça faut des études. Hein. C'est pas comme contraire. Et alors, vous voyez, la première qui se présente, elle a le crâne rasé, une espèce de crête rouge et bleue sur la tête.
Un peu punk.
Des épingles à nourrice dans les oreilles. Et alors, évidemment, la vieille sorcière, elle a du mal à comprendre. Et donc, elle ne trouve pas de remplaçante. Et alors finalement, comme sa spécialité, c'est les transformations, elle décide de se faire une sorcière. Sauf que celle qu'elle se fait, les résultats ne sont pas très probants.
Oui, ça, au niveau des pouvoirs de la sorcière, c'est pas
Si, elle a des pouvoirs.
C'est pas...
Il faut lire la suite.
De l'histoire. Donc, c'est Abracadameu, aussi édité au Griffon Bleu et illustré également par Laurine Ménétré.
Oui.
Toujours. Et puis alors le troisième, donc toujours au Griffon Bleu,
le tout nouveau,
illustré également par Laurine, c'est Godefroy, le roi des petits pois.
Voilà, ça c'est beaucoup plus presque
c'est
une comptine,
hein, voilà, moi j'ai,
pour les petits.
À partir de 5 ans.
Voilà, à partir de... Oui, même avant. Hein,
même avant,
si on leur lit, hein, mais même à 5 ans, il faut leur lire.
Tout à fait. Ben, moi, ma petite fille, la Salomé, qui a 6 ans, quand je lui ai lu, elle m'a dit « Ah, ça rime !» Parce qu'il y a beaucoup de phrases qui riment.
Corentin, ce matin, est descendu
dans son jardin voilà,
pour cueillir des petits pois.
Voilà.
Les petits pois étaient tout petits. Corentin s'est dit « Je reviendrai demain quand ils auront grossi. »
Voilà, donc elle m'a dit de suite, ça rime. Elle adore le principe des rimes. Et puis ça fait un peu à compter jusqu'à 7, hein, parce que bon, chiffre 7 qui revient, enfin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui revient.
Ce petit pois va avoir toute une aventure qui, en fait, vient faire le cycle des saisons. puisqu'il va être enfermé d'abord 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, voilà, 6 heures, 7 heures, puis le... être un jour, les... deux jours, sept
voilà,
jours,
les
un
semaines,
mois, deux mois,
les
une
mois.
Semaine, sept mois.
Donc il y a l'apprentissage aussi du temps
voilà,
qui passe.
Voilà, c'est le temps
du
qui passe, et puis ce petit pois ben, va finir par se retrouver enterré dans la terre. Et puis avec le printemps, bah, il va se remettre à pousser.
La pluie,
donc
le
on
printemps,
voit
tout et
puis. Le cycle, comme ça,
et Corentin va pouvoir aller cueillir
voilà.
plein de petits pois. Et
voilà.
Les enfants de, du roi Godefroy.
Du roi Godefroy
ouais. C'est une très jolie histoire, très, très, très joliment illustrée hein, également, avec des jolies
ah,
couleurs par Laurine.
C'est très original. Ce que je trouve extraordinaire dans ces illustrations, c'est que c'est d'apparence très, très naïve. Et en fait,
non, c'est très précis, hein.
énormément
c'est très
de choses.
Concis, ah, très précis, hein, je veux dire. Y a... Et puis bon, il y a les animaux, la fourmi,
ouais,
le loriot,
plein de petits
la taupe,
plein de petites choses. Qui
voilà,
se
donc
ici,
c'est très la nature. Hein,
ouais, puis on peut les regarder pendant des heures. On trouve, hein, chaque fois qu'on le rouvre, on trouve des petits détails qu'on n'a pas vus.
Non, non, c'est un très joli livre.
Dans, par exemple, dans Timoré et Téméraire. Il y a une image où il y a la maison des deux et tous les buissons sont en forme de théière.
Ah oui.
Et je l'ai lu au moins 20 fois avant de m'en rendre compte. Et là, je suis sûr que si des gens écoutent la radio et l'ont chez eux, ils vont aller voir. Et
ils vont aller vérifier que les buissons sont en forme de théière.
Les buissons sont en forme de théière.
Oui, non, c'est vraiment très original. Alors, donc la question qui suit forcément, c'est celle-ci. Qu'est-ce que vous avez comme projet, François, pour un autre album jeunesse?
Bon, pour l'instant, il n'y en a pas. J'ai un paquet d'histoires en stock. Comme moi, je suis pas très doué pour les affaires. C'est pas moi qui vais voir les éditeurs.
C'est les éditeurs qui viennent à vous.
Donc, s'il y a des éditeurs qui sont intéressés, j'ai des histoires très originales.
Et
pour
puis...
enfants, pour adultes, pour adolescents. Alors
oui,
donc je
oui,
sais pas encore.
Parce que les contes, c'est pas que pour les enfants, comme vous me le disiez tout à l'heure à l'antenne, vous aviez une jolie formule.
Ah oui oui, chez nous on dit les contes ne sont pas pour endormir les enfants, mais pour réveiller les adultes.
Ah c'est magnifique. Et donc oui donc si les éditeurs nous écoutent, vous seriez voilà, vous avez plein d'histoires dans votre tiroir, dans votre calepin,
oui,
dans votre tête
oui.
surtout. Et Laurine, bon, Laurine peut aussi illustrer, j'imagine. Vous avez
ah
trouvé.
Bah après,
il faut une bonne symbiose entre l'illustrateur et l'auteur.
Oui, après là, il se trouve que pour ces livres, ça allait bien. Mais là, j'ai un projet, par exemple, d'un livre pour les tout petits-petits qui s'appellera « Petit ours blanc a perdu sa maman ». Ça, c'est vraiment pour les bébés.
Et c'est pas trop
triste
quand même
comme
histoire,
j'espère. Et là, ça sera avec
j'espère.
Probablement une autre illustratrice parce que j'aime bien ce qu'elle fait et qu'on a des accointances aussi, mais...
Bon, vous reviendrez nous en parler, François, hein, à page
plaisir.
Quand vous aurez un nouvel album.
Avec grand plaisir.
Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venu nous parler donc de.
Deux secondes. S'il y a des gens que ça intéresse,
oui.
puisque je suis conteur, je serai bientôt. Vous parliez tout à l'heure de la médiathèque
oui.
José Cabanis.
Oui. Ah, vous y serez.
Eh bien, le 8 juin à 16h,
oui.
je serai là-bas avec un musicien pour un spectacle très beau qui est. Le cheval calot, qui
d'accord.
est une histoire des Tziganes Calderache. Et pour ceux que ça intéresse, alors là, on parlait du conte pour adultes. Du 18 au 21 juin, je serai au Théâtre de la Violette, donc près du métro Borde Rouge, pour Enfants sauvages, qui est un texte contemporain qui raconte l'histoire d'un petit gars de banlieue qui est dans la ville.
Je rannoncerai les dates au moment voulu.
Avec plaisir.
Vous allez me les laisser, puis je les rannoncerai pour le mois de juin. Merci beaucoup, François. La semaine prochaine, 1er mai, pas d'émission page à page. Le 8 mai, pas d'émission page à page. On se retrouve le 15 mai, précisément, à 9h30 sur les ondes de Radio Occitanie. Et on se quitte avec la comptine des Lapinous. Et je souhaite une bonne journée à tous les Lapinous et surtout aux miens. Adiciat.
C'est la comptine des gentils lapinous. Nous sommes aussi doux que des doudous. La crème chantilly, les guiri-guiri. Les peluches, les faux peluches sont aussi doux chouchous à nous. Nous les gentils lapinous. C'est la comptine des gentils lapinous. Nous sommes aussi doux que des doudous. La crème chantilly, les guiri-guiri. Les peluches, les fanfreluches sont aussi nos chouchous à nous. Nous les gentils lapinous.
Thank you.